Actu SF, les podcasts.
Eh bien bonjour, nous allons à présent parler des nouveaux sens du transhumanisme, sachant que avant d'explorer le monde à l'aide de nos outils technologiques, nous l'éprouvons d'abord et avant tout par nos sens. Bien des animaux et le vivant en général disposent de sens que nous ne possédons pas et qui sont adaptés à leur morphologie, leur mode de vie et en interaction avec leur environnement. Les instruments de mesure dont nous disposons sont des moyens d'explorer la nature dans les dimensions et les propriétés qui nous sont inaccessibles par nos sens. Nous n'en recevons que des données factuelles, ce que nos instruments nous disent, des informations cognitives que nous n'éprouvons pas dans notre corps. Alors, se doter de sens nouveaux permettrait-il de mieux comprendre et d'éprouver son environnement, d'en avoir une connaissance plus intime et de voir aussi à quoi ça servirait. En introduction, je pourrais citer un texte de John Desmond Bernal, extrait d'un petit ouvrage qu'il avait écrit, « Le monde, la chair et le diable », simplement parce qu'il avait déjà été écrit en 1929 et qu'il me paraît assez prophétique. Et le cerveau ainsi connecté continue une existence purement mentale et avec des délices très différents de ceux du corps, mais encore peut-être même préférable à une extinction complète. L'exemple a peut-être été trop tiré par les cheveux. Peut-être que le même résultat peut être obtenu beaucoup plus progressivement en utilisant les nombreux nerfs superflus dont notre corps est doté pour divers services auxiliaires et moteurs. Nous avons cruellement besoin d'un petit organe sensoriel pour la détection des fréquences sans fil, des yeux pour les rayons infrarouges, ultraviolets et X, des oreilles pour les supersoniques, des détecteurs de haute et basse température, de potentiel et de courants électriques et d'organes chimiques de toutes sortes. Bon voilà, donc nous avons, c'était un physicien spécialisé dans la cristallographie qui en 1929 se projetait déjà assez loin dans l'avenir. Aujourd'hui, bon, ben, nous avons quand même Kevin Warwick qui est devenu le premier cyborg en s'implantant en 2002, je crois, un implant dans le coude qui lui permettait d'ouvrir les portes et d'allumer les lumières de son appartement. Voilà. Bon, c'était un gadget, si on veut. Alors, pour discuter de toutes ces questions avec moi, j'ai Sarah Newton, qui est une romantrice et autrice de jeux de rôle. Outre les guides de jeu, certains de ces univers ont été développés sous forme de romans.
Oui, c'est ça. C'est ça exactement, oui. C'est l'univers de Mindjammer qui est un univers transhumaniste.
Voilà, notamment Mindjammer qui se déroule dans un futur lointain, totalement transhumain. Il y a une nouvelle communauté humaine qui essaye de reprendre contact avec tous ces mondes colonisés qui ont été perdus de vue, vu les distances spatiales et qui, à partir du moment où on a une nouvelle technologie pour voyager plus vite, on essaye de raccrocher tous ces humains qui, entre-temps, ont évolué, ont changé, se sont adaptés à leur environnement et nous avons donc des formes complètement différentes. Il y a un nombre assez impressionnant d'espèces, si on veut. Là.
Oui, c'est une civilisation qui agit de 10 000 ans. Il y a eu cette divergence évolutionnaire à travers les millénaires. Donc oui, il y a beaucoup de divergences physiques, mais aussi de mental et l'apparition aussi de plusieurs sens et quasi-sens différents aussi.
Voilà, et donc là, il y a une agence de sécurité d'intégrité culturelle qui a pour mission d'assurer la stabilité culturelle qui est pratiquement impossible à atteindre. Alors, dans ce jeu, vous pouvez choisir d'être un personnage de tel ou tel monde ou d'être l'un des membres de la mission. Sylvie Denis, nouvelliste, romancière, essayiste et anthologiste, qui avait dirigé aussi la revue Cyber Dreams de 1995 à 1998 et qui est aussi traductrice, entre autres de Greg Egan, Stephen Baxter, Gail Garriger. Elle a eu le prix Solaris et Rosny Aîné pour divers titres. Ses thèmes sont centrés sur les nouvelles technologies et leur impact sur les sociétés humaines. Donc après Jardin virtuel, qui est un excellent recueil de nouvelles, il y a eu Haute École, donc il y a eu le prix Julia Verlanger en 2004, et La Saison des singes, avec sa suite L'Empire du Soleil.
Sommeil.
Daniel, oui.
Sommeil.
Pardon. Non, mais j'ai dit sommeil. Mais...
Moi, j'ai entendu. Bon.
Daniel Tron, enseignant à l'université François Rabelais à Tours, qui est l'auteur d'une thèse de doctorat, Imaginaires paradoxaux, de la métalepse chez Philippe Cadic et Terry Gilliam. Assez impressionnant, d'ailleurs, cette étude sur Philippe Cadic, et qui est le co-organisateur des journées sciences et fictions à Peresque. Ses travaux donc portent sur la science-fiction littéraire et cinématographique dans les colloques de Peresque. C'est notre monsieur cinéma à nous. Voilà, donc, pour commencer à parler de tout ça, quel nouveau sens pourrait-on réellement désirer? De quoi devrions-nous nous doter en priorité? Et dans quel but?
Bon, ben, je vais me lancer alors.
Tu es le plus réveillé.
D'accord, donc je suis plus réveillé. Je pensais justement, on en parlait tout à l'heure, bien toujours, on aime bien la polysémie. Moi, je vois un nouveau sens du... pour revenir à du transhumanisme par rapport à de la science-fiction, il y a quand même quelque chose, même si dans ce courant de pensée, on est actuellement, depuis un moment, le terme est énormément utilisé, ça s'est agrégé dans énormément de discours et de disciplines différentes, et on a tendance à remettre sous le terme transhumanisme des choses qui, en science-fiction, sont développées depuis relativement longtemps. Et la première chose moi, qui m'avait intéressé dans cette question-là et par rapport au sens, c'est... qu'est-ce qui se développe actuellement ou quelles sont des attentes à court terme ou des choses qui sont déjà sur le marché, déjà expérimentées, qui expliquent qu'on ait un courant qui, du coup, non seulement l'appelle de ses voeux, parce qu'on en disait, il y a une forme, quelque part, de néo-positivisme, c'est-à-dire de, où on appelle de ses voeux et on estime positif, ou en tout cas un certain nombre de modifications de l'être humain, censé, et c'est de manière très très détachée puisqu'on n'a pas quand même des écoles extrêmement structurées transhumanisme, mais parce qu'on a aujourd'hui en tout cas des promesses ou des choses qui commencent à se matérialiser sur justement le développement de nouveaux sens ou en tout cas de nouveaux rapports à nous-mêmes, à la manière dont on interagit avec notre environnement. Effectivement, il y a beaucoup de méfiance par rapport à ça, puisque aujourd'hui, rien ne se fait réellement sans qu'on puisse en percevoir des intérêts économiques derrière. On nous vend des choses. Mais une chose très simple qui s'est développée, qui a énormément marché, ce qu'on appelle le soi quantifié, the quantified self, ou simplement le rapport à la proprioception, le rapport à notre propre corps, où les produits donc, se sont extrêmement bien vendus. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir quel est l'intérêt derrière, c'est plutôt commercial, mais le fait que ça se vende, et en tout cas, ça se répande, montre quand même qu'on commence à avoir des idées, de nouvelles manières du rapport à soi. Le nombre de personnes qui, effectivement, aujourd'hui, fonctionnent avec des cardiofréquencemètres, avec des observateurs de leur rythme de sommeil, avec un ensemble de capteurs sur soi-même, qu'on n'aurait pas forcément imaginé, qui, quand ils sont sortis, peuvent vraiment être pris pour des gadgets ou pour des choses comme ça, mais qui, finalement, on se rend compte que fonctionnent, sont énormément utilisés et commencent en fait témoignent en tout cas d'une volonté ou d'une appétence pour une numérisation en tout cas de la connaissance de soi. Et on est en quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on va, jusqu'à récemment, je veux dire, et encore beaucoup de gens sont de la même manière, je veux dire, on dort bien ou on dort pas bien. Bon, ça fait quand même depuis le milieu du XXe siècle, avec la montée en puissance du paradigme chimique, que le contrôle de son propre sommeil, la prise de tel ou tel produit pour dormir de telle à telle heure, on a déjà commencé de manière assez forte, de manière médicale, de manière chimique, à modifier la manière dont on fonctionne soi-même. Pas mal de gens fonctionnent, alors c'est très différent selon les pays, selon les classes d'âge et selon les produits dominants, mais le fonctionnement généralisé avec des excitants le matin, éventuellement des choses pour dormir le soir, la multiplication de traitements divers et variés pour se sentir bien sur le long terme, on est déjà dans une modification du rapport à soi et à laquelle on rajoute aujourd'hui quelque part d'autres types de mesures. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer d'ici pas très longtemps, et c'est déjà le cas, d'avoir justement des prescriptions de plus en plus précises par rapport à des capteurs qui vous expliquaient qu'on a plutôt besoin de ça, puisque dans notre inconscient, c'est au bout de 2-3 heures qu'on se sent comme ça, donc on a besoin. Et on sent bien que l'appétence pour la quantification, surtout au niveau du sommeil, on arrive à des choses où on va commencer à s'intéresser de près aux périodes où on rêve. Et aujourd'hui, on sent bien qu'on a donc cet ensemble de choses qui se développent, avec en même temps des progrès assez phénoménaux des neurosciences et d'imagerie cérébrale, et qu'on voit bien s'agréger différents outils qui sont de plus en plus distribués, de plus en plus disponibles, avec une forme de presque de hasard, de chaos dans la chose. Effectivement, il y a énormément de propositions et on voit ce qui s'agrège. Sylvie, vous voulez réagir ?
Oui, moi je me pose la question de savoir si on a déjà des études sur l'impact de tous ces mesureurs de comportement ou d'action, et si les gens s'en servent vraiment ou si c'est juste l'effet publicitaire. Je mets l'appli sur mon téléphone, je m'en sers pendant 3 jours et après j'y pense plus. Est-ce que je sais pas du tout, j'ai pas enquêté là-dessus. Est-ce qu'on a des informations là-dessus?
Je crois que aussi peut-être il faut admettre que nous sommes déjà en pleine transformation avec les nouveaux sens.
Oui.
On a tous quelque chose, presque tout le monde, presque par toute la planète maintenant, a une petite batterie de sens qu'on utilise. Parfois, on laboure sous une idée reçue qu'un nouveau sens doit être quelque chose implanté dans notre crâne. Mais ce n'est pas ça. On a tous un téléphone portable qui nous donne des images, des transmissions, de l'information directement dans notre conscience, pas à travers un petit appareil, bien sûr. Mais quand même, ça commence à avoir un impact sur notre manière de penser. Et on a déjà des études qui montrent que la durée de concentration parmi les gens qui utilisent trop les portables, par exemple, diminue un peu. Alors, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas pour l'avenir, mais c'est déjà parmi nous, cet événement.
Oui, d'autant plus que, pour autant que je sache, énormément de gens portent des lunettes. Ou des lentilles de contact, et que les unes comme les autres nécessitent un niveau de technologie quand même relativement avancé. Or, très peu de gens se considèrent comme des transhumains ou comme des humains augmentés, alors qu'ils mettent leurs lunettes ou leurs lentilles de contact tous les matins, et ce, depuis à peu près le 17e siècle, sauf si je dis une bêtise. Évidemment, autrefois, enfin, à une certaine époque, ça n'était réservé qu'à très peu de gens, mais de nos jours, c'est devenu courant dans nos pays occidentalisés, bien entendu. Donc, pour moi, le terme de transhumain, on est déjà des transhumains de toute façon. Après, on va peut-être être des transhumains un peu plus ou un peu moins et différents grâce effectivement à des applis, et éventuellement à des transformations physiques. On n'en est pas encore tout à fait là, mais on finira par y être.
Bah c'est assez. Je pense une des raisons, c'est que c'est assez facile aujourd'hui d'imaginer, en regardant peu en arrière et peu en avant, la manière dont ça va s'agréger. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est assez distribué. Mais si on ajoute effectivement le téléphone portable, c'est-à-dire on a un rêve de noosphère pour n'importe quel lecteur de SF, moi je reste quand même assez ému de me dire que j'ai dans la poche en permanence l'équivalent d'un supercalculateur de Météo France quand je suis né. Et tout ça avec des quadricœurs, avec une puissance de calcul phénoménale pour que les gens du monde entier puissent appliquer un filtre sépia à leurs photos qu'ils mettent sur un réseau social. Bon, ok. Mais ceci dit, déjà en soi, c'est un rêve assez exceptionnel. Le fait de commencer à pouvoir interfacer toute cette remontée de données. Et il y a une numérisation progressive. C'est-à-dire que de manière complètement réelle, il y a quand même deux choses qui se passent et qui sont continues depuis un moment. C'est l'augmentation de la part d'expériences secondes dans notre appréhension du réel. Un truc très simple, avant le développement des technologies de la communication, je dirais qu'au début du XXe siècle, jusqu'à la moitié du XXe siècle, même en France, l'aire des faits des gens était extrêmement réduite. Et leur vision du monde était à, je vais dire une bêtise en disant un pourcentage, mais en tout cas en immense majorité, était une expérience directe du monde. On se déplaçait à des endroits, on allait forcément moins loin, voyager coûtait très cher, il y avait moins de médias développés, ces médias eux-mêmes, avant le développement d'abord de la télévision ou autre, restaient très, très limité, très, très contrôlé. Donc, son expérience du réel, son rapport au monde était avant tout une expérience première, oui, limitée par des contraintes physiques.
Oui, on nous parle de la bulle des réseaux sociaux, mais autrefois, les gens vivaient dans la bulle de leur village et de la ville d'à côté. Ouais. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller beaucoup plus loin, étant donné les difficultés de se déplacer pour la personne lambda. Ouais,
et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de nos idées, de nos conceptions, de positions politiques, même locales, prennent compte en fait, d'une situation mondiale à laquelle on a désormais accès. Pour prendre un exemple très fin du XXe siècle et très économique, mais sans aucun problème dans les négociations à l'intérieur d'entreprises dont finalement le business peut même être extrêmement local, l'évocation de la situation économique en Chine, des conditions de fabrication de l'autre côté de la planète, vont avoir un impact direct sur la manière dont on va gérer ses affaires quotidiennes. N'importe qui fait une recherche d'informations de base, quand on voit la manière dont on cherche d'un moteur de recherche, une information de base sur comment je vais au bureau de tabac là-bas passe par un serveur en Californie. Donc le fait est que dans notre conception du monde, et on le voit avec des effets qui peuvent être positifs, négatifs, ça c'est juste de manière générale, la manière dont on voit la réalité, dont on la perçoit, est désormais majoritairement constituée par de l'expérience seconde, de l'expérience médiatique, et qu'on transporte tout le temps avec nous, et de plus en plus. Et il ne faut pas un gros saut imaginatif, surtout pour des lecteurs de science-fiction, mais là, de manière très, très présente, pour envisager un court terme dans lequel toutes ces choses vont se rassembler, vont s'interfacer, puisqu'elles sont en train de le faire. C'est-à-dire, effectivement, d'avoir une intégration progressive au corps, de manière de plus en plus immédiate, de cet accès à cette information qui concerne à la fois le monde extérieur et soi-même. Les promesses de la médecine connectée passent par des choses extrêmement simples, mais de pouvoir en permanence, je veux dire, avoir une connexion avec quelqu'un de compétent qui va pouvoir détecter si on ne fonctionne pas d'une manière habituelle et directement nous mettre en lien avec des gens capables de corriger ça, avec évidemment toutes les peurs, espoirs et fantasmes que ça peut déclencher. Et on n'en est effectivement pas loin, certains les vendent. Le truc qui est intéressant par contre, c'est que ça passe aussi par une animation de l'environnement. C'est-à-dire que c'est pas simplement, mais la frontière la plus effrayante actuellement, et celle peut-être qui fonde le transhumanisme, c'est celle de l'intégration au corps. C'est celle, quelque part, de cette idée du non-retour en arrière, parce qu'un téléphone portable... Alors, on a déjà ce qu'on appelle la nomophobie, hein, qui est une phobie classée, diagnostiquée, des gens qui, donc, ont des attaques de panique ou des niveaux de stress relativement peu gérables quand ils n'ont pas leur téléphone portable. Hein, c'est no mobile phone phobia. J'ai oublié mon téléphone portable, donc j'ai une attaque. Je ne suis pas bien du tout. Donc, on est déjà, en tout cas psychologiquement, extrêmement dépendant de la chose. Google a essayé de vendre des Google Glass il n'y a pas très très longtemps. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché certainement pour deux raisons. Un, le design n'était pas génial, donc on ne se voyait pas porter ça. Et deux, il y avait aussi une espèce de côté de peur de voir Black Mirror se réaliser et d'inquiétude sur la manière dont ça allait modifier directement notre rapport aux autres et une société dans laquelle on se filmerait tout le temps, avec un certain malaise. Et on était juste aux lunettes. C'est-à-dire que, de manière très physique, dès qu'on commence à se rapprocher des limites du corps et à se dire qu'on ne va pas pouvoir les enlever, là, on a une limite inquiétante qui, pour moi, inquiétante pour certains, appelée de leur vœu par des transhumanistes, et c'est là pour moi je joue le point d'achoppement où on parle de transhumanisme, pas simplement d'extrapolation sur des scènes de SF.
Je voulais juste revenir sur un point que tu as évoqué sur la conception du monde qui a changé par l'apparition de nouveaux sens. Il y a aussi un changement qui est assez important à mon avis, et c'est le changement dans notre perception de soi. À partir de, par exemple, les médias sociaux et ces sens de l'extérieur qui nous impactent. Il y a un siècle, à travers toute l'histoire humaine, on avait la tendance de nous voir comme un individu subjectivement. Et maintenant, on a la capacité chaque jour de voir comment les autres nous voient, comment les autres nous regardent. Et c'est quelque chose qui est assez différent. Oui, on est maintenant médiatiser nous-mêmes dans un environnement qui est sensoriel, mais aussi impersonnel. C'est plus social, cet environnement. Et ça va devenir beaucoup plus aigu, beaucoup plus sévère quand nous commençons à avoir les implants sensoriels, les implants neuronaux, les implants optiques, pour qu'on puisse, par exemple, partager les sens d'autres gens. On va pouvoir, par exemple, recevoir les transmissions de quelqu'un qui parle avec nous Alors, les impressions que notre interlocuteur a de nous au moment que nous parlons. Et ça va changer beaucoup, a priori, bien sûr, la façon dont on interagit avec l'autre gens, mais aussi notre sens d'identité personnelle aussi. Et c'est ça, peut-être, pour moi, qui me inquiète, c'est pas exactement le mot, mais qui me frappe plus que le fait d'avoir un implant dans ma tête. C'est plutôt d'avoir mon identité changée par l'expérience d'interagir avec les autres, par cette nouveau environnement.
Ça me semble difficile à traiter, parce que déjà, on doit chacun, quand on interagit avec des gens, traiter les informations, l'impact qu'a sur nous la proximité d'un autre être humain, le fait de lui parler, de le voir, de le regarder, etc. Si en plus on doit avoir le retour de la façon dont lui nous perçoit, je ne sais pas si notre cerveau est assez rapide pour intégrer tout ça et pour en tirer quelque chose. Mais c'est intéressant. Comme idée. Ce que j'ai fait, moi, dans La Saison des Singes et L'Empire du Sommeil, c'est de penser que, justement, comme des gens peuvent être reliés, leur cerveau et leur sens peuvent être reliés, ils permettent de former une entité collective. Et de cette entité collective, de ces cinq personnalités, naît une entité unique qui est en fait le vaisseau spatial qui peut voyager. Donc il y a une sorte de d'être qui existe à des niveaux différents, ce qui rend les choses un peu compliquées quand il y a des dialogues, mais c'est intéressant aussi à faire. Ça l'était intéressant à faire.
Oui, on parle vraiment d'une approche de l'intelligence un peu plus collective qui est peut-être pas forcément immédiatement devant nous, mais dans les décennies ou siècles à venir.
Mais en fait, dans les prémices, enfin, la manière dont les réseaux sociaux sont répandus, jusqu'à pareil, la fin du XXe siècle, quand on étudiait l'histoire des médias, on expliquait toujours que les nouveaux médias mettaient à peu près 30 ans à s'imposer. On a ça dans le développement de la radio, dans le développement de la télévision, le temps que la technologie. Internet est le premier qui se répand plus vite que ça, finalement. Si on prend depuis les balbutiements techniques, non, mais à partir du moment où il est accessible, c'est certainement celui qui s'est développé le plus vite. Et les réseaux sociaux dessus, la vitesse de développement des réseaux sociaux, après, c'est une théorie qui n'est pas que personnelle, mais quelque chose, un type de média ou une technologie qui permet une interaction avec les autres ne se développe pas à ce rythme-là, n'est pas adoptée par autant de personnes si elle ne correspond pas à un besoin réel. Et le fait est, quand on parle aujourd'hui de l'impact des réseaux sociaux et de la manière dont ça modifie la construction de notre identité, la pratique des réseaux sociaux par les adolescents, c'est-à-dire la manière de se construire soi-même par rapport aux autres, on a effectivement déjà ça. On a un outil technologique qui modifie la manière dont construisent leur personnalité et leur être énormément de personnes, déjà par des heures par jour. Et il y a un truc qui me frappe, c'est que c'est la manière dont finalement cette pratique sociale reflète énormément de découvertes ou de redéfinitions de l'être humain contemporaine. Pour moi, il n'est pas du tout anodin qu'on commence à avoir cette espèce de fonctionnement, en tout cas, qui est à la fois fantasmé et à la fois très réel et très quotidien, d'identité collective ou de fonctionnement, et que ce soit dans les mêmes périodes que, tout d'un coup, on commence à redéfinir l'humain et le rôle de son microbiote sur sa psychologie. Où on se rend compte que, quand on modifie la flore intestinale, qu'on redéfinit comme des colonies de bactéries, et le fait de redéfinir l'humain comme un être semi-collectif, de l'intérieur à l'extérieur, c'est à la même période. On se rend compte que, voilà, quand on traite des rats avec des antibiotiques, et du coup, qu'ils se retrouvent presque tout seuls à ne plus avoir toutes les colonies qui sont dans leur intestin, pour penser avec eux, que les rats sont beaucoup moins prudents. Hein, qu'ils ont un comportement où ils vont moins sauvegarder leur propre vie. Ça correspond aux mêmes années. On est pareil dans les années où on est en train de redéfinir ce qu'est l'intelligence, de découvrir notamment la manière dont des végétaux, en fait, ne sont pas des monades, mais sont des êtres qui aussi s'échangent des informations, fonctionnent ensemble. Et c'est dans la même période où voilà, on est en train aussi de redéfinir ou de porter en tout cas un autre regard où effectivement cette idée de l'être comme étant un être seul, ou en tout cas qui est une unité première, finalement on commence à la remettre en cause au moment justement où à l'extérieur ce genre de pratique se développe.
Et imaginons par exemple si c'est les... ah, pardon.
Oui. Non, c'était pour un petit peu reprendre ce que vous aviez tous dit. Il y a d'une part l'externalisation du corps par le biais de certains outils. Le Waldo de Heinlein permet aussi de piloter à distance. Maintenant, on pilote à distance des appareils. Et le fait même de les éprouver en tenant un objet, une manette, on est en train de faire un travail qui peut être quelque chose de très distant. Donc là, nos propres sens sont projetés à l'extérieur. Et d'un autre côté, vous aviez la question que j'aimerais explorer sur la plasticité du cerveau, comment elle-même peut intégrer de nouveaux sens qui, cette fois-ci, seraient dans le corps. Je crois que c'est Sylvie qui avait dit qu'elle n'était pas très sûre si le cerveau peut l'accepter.
Mais disons qu'est-ce que la quantité d'informations à traiter et la vitesse de fonctionnement des impulsions nerveuses dans le cerveau seront suffisantes. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut faire ce que fait Alastair Reynolds dans certains de ses bouquins, où il y a une partie des humains qui justement ont une sorte de crête qui rajoute des neurones et de la rapidité de fonctionnement à leur cerveau, carrément.
Bon, il me semble qu'on s'habitue quand même assez rapidement à un implant. Même à une manière de marcher lorsque l'on est peut-être handicapé. L'enfant apprend à utiliser son corps-outil, si l'on veut, jusqu'à ce qu'il puisse coordonner ses mouvements. Et même quand on tient un bâton, on arrive à éprouver ce que l'on touche avec. Et ce n'est pas dans la pomme, c'est dans le corps que l'on sent que l'on a tous ses sens. Ensuite, allons un petit peu plus loin, je crois qu'il faut quand même un certain temps pour le cerveau de s'habituer. Je pense à un récit de Raphaël Granier de Cassagnac qui sera là demain sur les débats pour le transhumanisme, Thinking Eternity, où la personne, suite à un attentat, a perdu les yeux, a été énucléée. Et au moment de lui greffer des yeux électroniques, enfin bioniques, on lui dit heureusement qu'on a pu intervenir vite parce que le cerveau était déjà en train de désapprendre. Et c'est ce que disait Bernal aussi dans son texte de 1929, c'est que nous avons aussi quelques réseaux de nerfs que nous pourrions utiliser pour recevoir donc d'autres sensations. Et alors à ce moment-là, quelles sont les dissonances cognitives que l'on pourrait avoir? Combien de temps il faudrait pour l'apprentissage du cerveau? Comment est-ce qu'on peut intégrer des sens complètement nouveaux?
Et je crois que c'est une vraie question et un vrai problème aussi. À mon avis, je crois qu'on va voir assez rapidement arriver les technologies pour nous aider, pour augmenter la puissance de nos cerveaux, de nos mémoires, pour s'habituer à ces nouveaux sens, bien avant que nos cerveaux aient eu le temps de s'habituer, d'évoluer pour accepter ces nouveaux sens. On va avoir notre petit iBrain qui va stocker les mémoires ou les sens, nous aider avec un peu plus de puissance pour processer ces données. Mais je crois que on est déjà en train de voir que les gens lisent un peu plus superficiellement maintenant. Moi-même, j'ai bien éprouvé parfois qu'il me faut me concentrer pour lire profondément dans un texte parce que chaque jour, je vois énormément de mots, de textes passer par mes yeux et je ne lis pas profondément naturellement maintenant. C'est un peu plus de concentration qu'il faut. Et je crois que c'est... Oui.
Oui, moi, l'effet que ça a sur moi, l'abondance de textes et d'informations sur l'Internet, c'est que j'ai tendance à lire en skimming, en survolant en diagonale, parce qu'il y a un certain nombre d'informations que moi je trouve redondantes. Donc je vais chercher dans le texte ou dans l'article uniquement le petit bout de paragraphe qui va m'apprendre quelque chose, ou là où je vais aller directement à la conclusion, parce que j'ai pas envie, j'ai la flemme de suivre le raisonnement du journaliste ou de l'auteur du texte, mais c'est parce que je suis pas très patiente non plus. Mais je pensais qu'avant d'avoir des augmentations au niveau des sens, on aura, au niveau de l'information et de la captation de l'information, on aura le prolongement de ce qu'on a déjà, c'est-à-dire des yeux améliorés. Moi, j'aimerais bien voir dans l'infrarouge, pourquoi pas. aller voir de nuit, ça peut être pratique, et ce genre de choses. Quand on perd le goût, par exemple, ou quand le goût se modifie en vieillissant, ça peut être intéressant de voir si les gens auraient envie de garder leurs anciennes perceptions gustatives ou de les voir changer, après tout, on ne sait pas. Pareil pour lui, à partir du moment où on est déjà des gens qui ont des appareils auditifs, c'est des hommes bioniques, hein, vous ne les voyez pas, mais ils sont là parmi nous. Et on pourrait penser à changer le spectre de sons que nous entendons et à créer d'autres musiques pour d'autres ouïes. De la musique pour les chauves-souris,
Il y a aussi l'odorat qu'on ignore beaucoup. En tant qu'être humain, on n'a pas grand-chose comme odorat, en sens olfactif. Et si on avait la capacité de...
Je voudrais savoir, pouvoir sentir ce que sent mon chat, oui.
Oui,
moi je veux bien.
Juste pour rire, mais il y a déjà un business, hein, parce que le nombre de gens qui déjà depuis des années... jurent qu'ils entendent la différence avec des super tweeters qui, sur leur système Hi-Fi, leur balancent des fréquences à 40 000 Hz. Franchement, quand ils... Dans les magazines, en tout cas. Hein, la mémoire auditive, c'est une mémoire horriblement mauvaise chez l'humain, mais ils vendent depuis des années extrêmement cher des super tweeters à 40 000 Hz. Et les gens, quand ils les ont, qui les ont payés cher, arrivent à se persuader que vraiment, ils entendent. Donc, il y a déjà des gens qui entendent comme des chauves-souris chez les Hi-Fi depuis longtemps.
Ce qui montre bien aussi que les nouveaux sens ne sont pas seulement dans un but utilitaire, cognitif, mais peut être aussi ludique, artistique. Et puisqu'elle parlait de musique, Sylvie Denis, j'aimerais peut-être rappeler Magma Plasma, donc une nouvelle, où vous allez le voir tout de suite, c'est une personne qui écoute des symphonies, mais d'une manière tout à fait originale, si on veut, je vais lire juste un petit paragraphe. Son corps, recouvert d'un filet neurotactile, baignait dans un gel conducteur. Elle écoutait, voyait et ressentait UIGV 500, une composition figurant sur le dernier album live de Peter Tansfield. Et pour une fois, il lui semblait qu'elle avait atteint ce moment unique où elle était à la fois les vibrations des différents instruments, les images qui se déployaient devant elle et les sensations procurées par la combinaison tactile. Voilà, donc peut-être un petit côté artistique de la chose.
J'avais complètement oublié ce paragraphe, évidemment. En plus, c'est une nouvelle dans laquelle un des personnages, le magma plasma en question, c'est une modification corporelle en fait, qui permet de contrôler totalement le corps. Donc on est un blob. Et on peut faire absolument ce qu'on veut avec son corps et le personnage en question en fait tapisse l'intérieur d'un astéroïde et il y a une rencontre qui se passe à l'intérieur. L'idée tout simplement au départ c'était de faire un Barbapapa mais en mieux pour les gens à qui ça rappelle quelque chose Barbapapa bien sûr.
Je crois aussi qu'il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est le fait qu'actuellement, nous n'apercevons que 4% de l'univers. Il y a beaucoup de dark matter, dark energy à l'extérieur qu'on ne voit pas. Alors, on n'a pas même encore inventé les capteurs qui peuvent détecter la plupart de l'univers. Alors là aussi, c'est un peu comme en Lovecraft, quand il y a les inventions qui permettent de voir l'autre dimension, les êtres qui vivent toujours autour de nous, les monstres tentaculaires qui vivent autour de nous, qui grouillent. Alors là aussi, peut-être un peu plus à l'avenir, c'est pas pour l'avenir proche, mais là aussi, il y a les sens à venir.
Oui, et puis le concept de vaisseau uni au pilote ou de pilote uni au vaisseau, c'est quelque chose de classique dans la science-fiction. Et à partir du moment où le vaisseau et le pilote sont à peu près le même organisme, la conscience humaine qui se trouve à l'intérieur possède l'essence d'un vaisseau. Et un vaisseau spatial, ça a besoin de voir loin, dans des spectres qu'on ne voit pas, de percevoir des données, etc. Donc ça peut donner des choses intéressantes d'un point de vue science-fictif.
Oui, dans le vaisseau qui chantait de Anne McCaffrey, on est, la personne est vraiment le vaisseau et en est très satisfaite. Peut-être de la même manière où aujourd'hui, dans une voiture, on a le plaisir de la conduite. On peut même dire que l'on tourne ou que l'on... ce n'est pas nous qui tournons, évidemment, c'est le véhicule dans lequel nous sommes. Mais il y a cette intégration de nos propres sens qui s'étend jusqu'au véhicule que nous occupons.
Cameron, dans Avatar, nous fait pratiquement une histoire de ce que cela pourrait être à terme. On a, donc c'est quand même un être qui, au départ, est paralysé, qui peut se être transmuté dans un corps qui lui-même est un corps, qui est un produit génétique, en fait, et qui mélange son propre ADN, enfin celui de son frère jumeau qui est mort, avec une autre espèce adaptée à la planète. Donc on a ce concept de pantropie, qui est vraiment l'adaptation du corps à un environnement, extraterrestre. Et derrière, la deuxième, donc cette première couche en fait, qui nous fait exactement penser aujourd'hui aux premières promesses en fait, des casques virtuels avec retour haptique, on commence à avoir. Donc pour l'instant, ça balbutie encore malheureusement pour plein de raisons différentes, mais la technologie est bien plus mûre que ce qu'elle a été. On peut aujourd'hui, avec des technologies accessibles, bon, même si le ticket d'entrée est un peu cher, mais c'est, maintenant ça reste accessible, passer 8 heures en monde virtuel sans aucun souci. Les technologies haptiques commencent à arriver, être de plus en plus efficaces. On n'est pas encore à celle de Ready Player One, mais on peut commencer à voir que ça va arriver. On a déjà commencé à avoir des gants qui marchent, des détections de mouvement, etc. Et là, on a ce moment-là dans Avatar. On a cette première étape où on va être transféré dans un corps pantropique, donc lui qui a été modifié pour être adapté à notre environnement. Et lui-même, dans cet environnement-là, tous les êtres de cette planète peuvent s'interfacer entre eux. Il y a une espèce de relecture sur un paradigme biologique de ce qu'on a déjà dans l'interfaçage du cyberpunk. Et justement, la première idée, c'est de s'interfacer avec des animaux. Et donc de profiter des sens de ces animaux-là pour faire osmose finalement avec une planète qui elle-même est définie comme un réseau intelligent, puisqu'à un moment, la découverte des scientifiques dans ce film-là, c'est justement que les végétaux communiquent entre eux, ont de la mémoire, sont des espèces de banques de mémoire qui transcendent la vie humaine, vu que les souvenirs en fait, de ceux qui décèdent sont transférés et stockés par la nature elle-même, par les végétaux. Et à certains endroits, on peut s'interfacer avec ces végétaux pour entendre les ancêtres. Alors évidemment, ça arrive à une période où on redéfinit, on revoit la nature, là encore, par le spectre du réseau qu'on est en train de construire dans les humains. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, ça correspond à des recherches et à des découvertes réelles sur les échanges d'informations constants. Donc là, on a ces deux étapes-là. On retrouve nos technologies actuelles, on a l'idée de pantropie, donc d'adaptation du corps à un autre environnement. Et entre-temps, derrière, on a cette idée d'intelligence collective et de possibilité de partager des sens avec d'autres espèces, et même avec une planète. Donc on a des espèces de degrés, non pas d'aliénation. Ce que je dis d'aliénation, c'est quand même connoté de manière négative, donc anti-transhumaniste. Mais on a en tout cas différentes étapes, effectivement, de transcendance de ce qu'on est au départ, d'un être simple adapté à un environnement, à un être sur un autre environnement, à une autre espèce animale et à un autre type d'intelligence collective distribuée et d'une échelle énorme dans le temps et dans l'espace.
Oui, c'est intéressant à se demander si cette tendance est le résultat d'un instinct en nous dans la direction de cette collectivité, de cette tentative de créer une conscience collective. Oui, est-ce que c'est au hasard que nous inventons des nouveaux sens, des nouvelles facilités de partager notre expérience, ou est-ce que c'est une tentative de conquérir la solitude de l'individu en nous fusionnant ensemble dans une espèce un peu plus transcendante, par exemple?
Oui, c'est une question intéressante. Parce que quand je conçois ces espèces d'entités collectives, je pense que c'est effectivement, ça correspond à un besoin de briser l'état de solitude de mes personnages. Quand c'est au niveau des sociétés, je me dis qu'on n'est pas très doué pour créer des entités collectives. C'est-à-dire que les entités collectives fonctionnelles qu'on crée et qui le sont vraiment, qui fonctionnent ric-rac, telles qu'elles sont censées le faire, ce sont des armées ou ce sont des États totalitaires. Et c'est pas génial, quoi. On n'a pas trouvé les moyens, on n'a pas beaucoup de moyens de fonctionner efficacement en tant que collectif, autrement que dans des collectifs coercitifs et nuisibles. En tout cas, c'est mon impression. Si on trouvait autre chose, ce serait bien, ouais, effectivement.
Mais là, tu parles d'une collectivité formelle, oui, d'une organisation qui est concrétisée.
Qui vient d'extérieur, oui.
Oui, mais je dirais déjà qu'on existe dans une collectivité informelle. Nous sommes des singes individus, mais on a déjà planté un homme sur la Lune. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas faisable si on était des individus. Alors, cette tendance vers une collectivité, c'est peut-être quelque chose plutôt instinctif que formalisé.
Oui, disons que c'est indispensable à la création des sociétés. Il n'y a pas d'individu sans société, inversement.
Mais je suis en train de penser, il y a quand même... souvent, quand on parle de ces questions-là, qu'on arrive à ces sens-là, à ces modifications ou autres, c'est vrai qu'on tombe sur des anciennes manières de penser plutôt négatives. Je me demande s'il n'y a pas aussi l'héritage du cyberpunk à ce niveau-là, où forcément, on avait tendance à imaginer que ces technologies-là, de toute façon, allaient de pair avec un état noir du monde. Après, il y a quand même quelques-uns. Si on prend les Warshawski, parce que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, je dirais, ils le préfigurent et le mettent en image dans Matrix, avec justement d'un côté cette espèce de réalité noire qu'on préfère ignorer, rester dans un profond sommeil d'êtres qui ne sont connectés que par un outil numérique et dont les corps finalement ne servent à rien qu'à être des unités de production énergétique dans une logique d'asservissement très gouvernement central, très dystopique, très 20e siècle, non pas que ce soit moins réel au 21e, on va un peu changer de forme, et à côté de ça on a comme contrepoint et comme opposition les vrais humains résistants qui sont le cœur battant et transpirant et suintant de la planète au milieu et qui résistent en faisant quoi ? Des énormes rêves collectives où on va se frotter les uns aux autres, où on va glorifier le contact direct du corps, et en même temps, où on va créer une espèce d'entité rythmique, collective, une espèce de magma humain positif qui va s'opposer justement à ces monades qui ne sont connectées que par un réseau asservissant. Mais quand on regarde les dernières choses qu'ils ont fait, quand on regarde Sense8, par exemple, là, ils reprennent cette idée-là, qu'ils reprennent constamment, hein, c'est énorme, mais là, on a des clusters. On a des gens qui sont à un stade plus évolué de l'humanité, qui sont des transhumains, et qui ont cette espèce d'autre sens, qui eux est intégré à leur corps, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils sont en groupe, comme ça, et ils peuvent d'un coup être en empathie totale et partager les expériences des uns des autres. Alors, chez eux, ça leur sert à un autre thème, d'ailleurs récupéré par des courants de transhumanisme, sur le mélange des sexes, la possibilité de choisir soi-même et d'agir sur son propre corps et de faire correspondre hein, de manière vraiment active et médicale sa réalité psychologique, sa réalité du corps. C'est-à-dire qu'en même temps, ils introduisent la possibilité d'une disruption, mais de la corriger. Et en même temps, on a cette idée, parce qu'évidemment, ça leur sert à voir des scènes qui sont à la fois parfaitement science-fictionnelles, parce qu'on nous a expliqué le principe de cette nouvelle espèce, de fonctionnement de ces nouveaux sens qui leur permettent de vivre, pour faire des orgies bisexuelles planétaires, où on va partager de manière directe l'expérience la plus charnelle et la plus intime des autres. Et donc, eux ont une manière paradoxale, intéressante, mais positive, de présenter la chose. Comme on est dans un récit de science-fiction et qu'il faut être intéressant, il y a quand même une couche d'asservissement de créatures de laboratoire et d'êtres qui vont abuser justement de cette capacité de rentrer dans l'intimité des uns des autres, mais eux ont une manière finalement assez positive de présenter cette capacité à partager totalement l'expérience des autres et il n'y en a pas beaucoup. On est plus dans Black Mirror que dans Sense8.
J'ai enfin compris ce que racontait Matrix, donc c'est bien. Je vais essayer Sense8 alors, parce que s'il y a des orgies, tout va bien.
Mais je crois que c'est un débat qu'il faut avoir. Oui, il faut mener cette discussion publiquement parce que par exemple, imaginez que nous avons notre Facebook et tout d'un coup, c'est possible de télécharger nos pensées, nos mémoires. Pas uniquement une photo de notre dîner, d'un repas, d'un McDo notre page, mais notre mémoire actuelle. Alors, que dirait-on si tout d'un coup Facebook a dit qu'il a le droit d'éditer ou de changer ou de modifier nos mémoires qu'on a mis sur Facebook? Alors, c'est quelque chose-là qui c'est un débat qui est important d'avoir. Oui, c'est...
Puis le truc, c'est qu'on parle toujours de ça. En ce moment, il y a énormément de choses sur voilà, la sécurité, la sécurisation des données, notre vie privée, etc. Et évidemment, on a des réflexes d'aller accuser la méchante compagnie multinationale qui a le contrôle de nos données. Données qui ont été données de manière volontaire et continue par les utilisateurs de manière parfaitement consciente. Et le fait est qu'on en parlait encore.
Il réfléchit peut-être.
Il réfléchit peut-être, mais il continue à le faire. Et il n'y a pas... Et ça, on a une redéfinition de ce que c'est que l'intime, de ce que c'est que les limites de soi qui est arrivée extrêmement vite. Et si on se projette un tout petit peu, on en parlait hier, sur la manière dont Google s'est imposé. Google s'est imposé pour plein de gens qui ont connu le pré-Google en termes de recherche sur Internet. On marchait avec des agrégateurs de moteurs de recherche. On lançait un... Moi, j'utilisais un logiciel, je peux faire de la pub, il n'existe plus, il s'appelait Copernic, où je faisais une recherche sur Internet pour trouver une information. Alors, il m'agrégeait 15 ou 20 moteurs de recherche. Ça prenait 3-4 minutes pour qu'ils me mettent des résultats...
En 56K.
Voilà, en 56K, mais le moteur lui-même, c'était très lent. Et puis, Google arrive, sans changer de technologie, j'ai des résultats plus satisfaisants beaucoup plus vite. Et une des clés de Google, bon, après on a découvert qu'il y avait énormément d'installations très dures de serveurs, qu'il y avait plusieurs dizaines de milliards d'investissements en dur, mais un des trucs qui a été le problème de Google au départ, mais qui faisait son efficacité, c'est que la limite entre ce qui était mes documents et ce qui était sur Internet sont les premiers à la faire voler en éclats. Microsoft suit, et les systèmes d'exploitation qui commencent à ouvrir nos portables, nos ordinateurs sur le réseau suivent. Mais le fait est que, du coup, des documents que j'avais enregistrés, moi, à certains endroits de mon disque dur physique chez moi, là, posé là, là, qui faisait du bruit sous le ventilo, tout d'un coup, étaient accessibles par un moteur de recherche. On n'a pas besoin d'un gros saut imaginatif pour se dire que je vais avoir de moins en moins besoin d'interface, que mon interface est de plus en plus proche de moi et que ce que je pense, mes souvenirs ou mes réactions instinctives vont elles aussi être accessibles par un moteur de recherche. C'est déjà le cas en bonne partie. En ce moment, on voit se multiplier les problèmes d'être attaqué pour ces Twitter d'il y a quelques années. C'est devenu un sport dans plein d'endroits. Mais Twitter, à la base, c'est vraiment... C'est une espèce de réaction instinctive qu'on a à un instant T, mais qui est stocké quelque part. C'est un instant cristallisé de ce que je pensais à ce moment-là, d'une réaction d'humeur qui tout d'un coup est numérisée, devient accessible dans le temps, alors qu'à la base elle ne l'est pas, elle est forcément fugace par essence, mais là elle ne l'est pas. Combien de temps est-ce qu'il va falloir avec un moteur de recherche se dise « Ah oui, mais lui là-bas, il est en train de penser un truc comme toi. Non, il ne veut pas se reproduire aujourd'hui, mais oui, politiquement, il est d'accord avec toi. Et d'ailleurs, oui, lui aussi, il aime bien les oignons. Et tu peux le rencontrer. D'ailleurs, automatiquement, je peux te dire qu'il te faut à peu près 128,2 minutes pour l'atteindre si tu prends tel avion, tel bus, tel âne, parce qu'il est là-bas. Franchement, on a tous les outils. Il n'y a pas besoin de se projeter beaucoup dans l'avenir pour imaginer que ça arrive. Et on peut très bien imaginer qu'on le fasse consciemment et volontairement aussi. Parce que quelque part, on est sur un boulevard qui va vers ça.
Il y a quelque chose dans mon roman Mindjammer qui s'appelle le flux de perception directe. Et c'est avec un implant neuronal, on peut charger toutes les transmissions de sensations de nos cinq sens dans cette noosphère et partager toutes nos perceptions d'un moment en real time avec la planète. Alors, dans ce cas, c'est complètement pensable qu'on va avoir cette possibilité de partager à n'importe quel moment les choses qu'aperçoivent les autres.
Mais quand on voit le succès aujourd'hui du nombre de gens qui se délaissent la télé pour passer des heures sur Twitch, c'est-à-dire que je vais passer des heures à être devant mon ordinateur, à regarder en temps réel ce que fait quelqu'un d'autre devant son ordinateur en train de jouer à tel jeu. Bon, imaginons que là, on a juste Twitch 2 ou 3.0, où on mélange le tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir un face Twitch, où en fait, le flux direct que je suis en train de partager, c'est celui de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose avec des gens ailleurs, et que de plus en plus, je vais pouvoir effectivement me rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, dans tous ses sens à lui. Après, tout va dépendre de la qualité de mon interface, parce que si je le fais sur un écran, à la limite, ça reste relativement extérieur. Si je commence à afficher ça sur des lunettes, mais que je suis encore en réalité augmentée, c'est-à-dire que je vois encore mon expérience à moi direct, on se rapproche. Si je commence à faire ça avec un casque ou avec un truc qui remplace carrément ma vision et que je peux avoir ses sens aussi, je pense que l'industrie de la prostitution va se jeter sur ce produit relativement rapidement, hein, déjà, et les autres industries du divertissement très vite derrière. c'est pareil, on voit très bien les germes des outils aujourd'hui. Il n'y a pas un gros saut imaginatif à faire pour imaginer ce que ça peut donner.
Et la nature humaine change complètement, oui, dans ce cas.
Et puis, on n'écrit plus de bouquins, c'est un peu agaçant.
Si, mais par contre, quand tu écriras un bouquin, y aura, tes lecteurs seront en train de l'écrire avec toi. Et ils pourront même te donner des conseils. Ce sera un cauchemar de fanfiction.
La dernière question, là, maintenant, puisque l'heure avance, c'est de demander jusqu'où aller. Étant donné que si l'on peut se connecter à plein d'outils technologiques lointains ou même au reste de la planète, n'y a-t-il pas d'une part un risque de dilution du corps et donc de soi, et de la même manière que si l'on peut intégrer plusieurs consciences et autres, n'y a-t-il pas un risque aussi de dissolution du moi carrément, et c'est-à-dire que l'humain en tant que tel n'existe plus, on serait dans une sorte même plus de transhumanité mais de post-humanité vers quelque chose de complètement différent.
Moi personnellement je dirais que oui. On sait déjà que le moi c'est une fiction, c'est quelque chose que nous aide en tant qu'un corps animal d'interagir avec le monde, ça n'existe pas vraiment. Alors oui, pour moi c'est comme Olaf Stapledon déjà, c'est un contemporain de Barnall dans les années 30, un homme qui a écrit Starmaker et Les derniers premiers hommes. Il a conçu cet avenir lointain d'un univers intelligent. Et je crois que oui, ça va occasionner la disparition de l'espèce humaine. Oui, c'est entendu. Mais aussi, je crois que c'est peut-être un destin qu'il est devant nous, enfin.
Bah, oui, enfin, j'ai répondu oui à jusqu'où aller, hein, c'est ça, oui. Non, je repensais effectivement à ce qu'on a les lenteurs, c'est ce que peut-être que sera forcément, quand on parle de transhumanisme, c'est une redéfinition, c'est forcément la fin d'une conception traditionnelle vers une autre. Je repensais au Warshawski, ce qu'on pense, en fait, c'est quelque part, c'est dans la transformation de soi ou dans l'acceptation de la part des autres et de l'importance des autres que finalement, on va peut-être se réaliser, c'est donc jusqu'où aller. Là après la question est très très complexe. Comme on peut être très pessimiste, comme beaucoup. On a Black Mirror nous développe plein de possibilités extrêmement inquiétantes d'aliénation par ce genre de technologie ou de mise en commun, de numérisation de son esprit et de mise en commun et de rupture de la frontière de l'intime. Hein. On a des scénarios assez cauchemardesques. À côté de ça, on a d'autres qui, effectivement, comme eux, vont le présenter de manière d'une transformation positive, hein, de transcender des choses qui, finalement, sont nos propres barrières et continuent de nous maintenir dans un état malheureux. C'est ce qu'ils disent pour les premières versions de la Matrice, hein, qu'au début, les premières versions, tout le monde était heureux et qu'à chaque fois, il y a eu des plantages absolument affreux parce que l'être humain n'était pas fait pour ça. Il avait besoin de péripéties. Jusqu'où aller, je ne sais pas. Ce qui me frappe, moi, dans ces agrégations de technologies, de succès, je veux dire, ou d'adoption massive de nouvelles technologies et de concomitance, de redéfinition de l'humain par différentes disciplines scientifiques, c'est que c'est quelque chose qui est en train collectivement de nous arriver, plus que quelque chose dont on a le contrôle. C'est aussi une partie inquiétante de ce genre de changement. Jusqu'où aller, j'en sais rien. J'ai juste vu qu'on a commencé à y aller avant même de s'être posé la question de là où on allait. Et après tout, on a un peu toujours... Enfin, en tant qu'espèce, c'est un peu une de nos spécificités aussi. Quoi. C'est, si on peut y aller, on va y aller. Tiens, une montagne, je vais aller en haut. Tiens, une mer, je vais aller de l'autre côté. C'est extrêmement dangereux, mais je vais trouver un moyen d'y aller. Bon, tiens, il y a un satellite, là, je vais y aller. Là, en ce moment, il y a un retour. Là, il y a une planète juste là, j'irai bien là-bas. Et pour ces outils-là, en tout cas, il y a une espèce, effectivement, d'imposition de fait. Jusqu'où aller, je ne sais pas, mais clairement, on y va.
Oui, je pensais que c'est aller vers des collectifs, oui. Mais je pense pas que le fait que le moi soit une illusion soit un problème. Que ça soit une illusion ou pas, ça change pas grand chose de notre point de vue d'humain. Tant qu'on est et qu'on évolue en tant qu'humain, qu'on est, enfin tel que nous sommes à peu près en ce moment. Donc, ce qui est bien, effectivement, c'est de créer des collectifs, mais de créer des collectifs de d'être différent, le plus différent possible, ce moins ennuyeux, je trouve.
Très bien. Bon, ben, je vous remercie. On a déjà bien exploré la question. On pourrait continuer encore longtemps, mais on va laisser la place au débat suivant. Merci beaucoup.